Troisième partie. Mars 1920. Chapitre 26. Henri d'Aulnay-Pradel, esprit simple et sans nuance, avait facilement raison parce que sa rusticité décourageait souvent l'intelligence de ses interlocuteurs. Par exemple, il ne pouvait s'empêcher de considérer Léon Jardin-Beaulieu, moins grand que lui, comme moins intelligent. C'était évidemment faux, et pourtant, comme Léon nourrissait un complexe à ce sujet qui le privait de ses moyens, Pradel avait toujours gain de cause. Dans cette suprématie, il y avait cette question de la taille, mais aussi deux autres raisons qui se nommaient Yolande et Denise, respectivement sœurs et épouses de Léon, et toutes deux les maîtresses d'Henri. La première, depuis plus d'un an, la seconde, depuis l'avant-veille de son mariage. Henri aurait trouvé plus piquant encore que ce soit la veille de la cérémonie, ou mieux, le matin même. Les événements ne s'y étaient pas prêtés, et l'avant-veille représentait déjà un fort beau résultat. Depuis ce jour-là, il disait volontiers à ses intimes « Dans la famille Jardin-Beaulieu, il me manque que la mère ». La plaisanterie avait du succès parce que Madame Jardin-Beaulieu-mère était une femme peu propre à éveiller le désir et très vertueuse. Henri, avec sa goujaterie coutumière, ne manquait pas d'ajouter « Ceci explique cela ». En somme, entre Ferdinand Morieux, un parfait imbécile, et Léon Jardin-Beaulieu, tétanisé par ses inhibitions, Henri avait choisi deux associés qu'il méprisait. Jusqu'alors, il avait eu les coudées franches pour organiser les choses à sa manière, vive et expéditive, comme on sait, et ses associés s'étaient contentés de percevoir leurs dividendes. Henri ne les tenait au courant de rien, c'était son entreprise. Bien des obstacles avaient été contournés sans avoir à rendre de compte, il n'allait pas commencer maintenant. « Seulement, dit Léon Jardin-Beaulieu, cette fois, c'est plus embarrassant. » Henri le toisait de toute sa taille. Quand il discutait avec lui, il s'arrangeait pour être debout afin de contraindre Léon à lever la tête, comme pour regarder le plafond. Léon scia rapidement. Il avait des choses importantes à dire, mais cet homme lui faisait peur, et il le haïssait. Il avait souffert en apprenant que sa sœur couchait avec lui, mais il en avait souri comme s'il en était le complice et même l'instigateur. Quand remontèrent les premiers bruits concernant Denise, son épouse, ce fut autre chose, l'humiliation lui donna envie de mourir. Il avait épousé une femme belle parce qu'il possédait une fortune. Il ne s'était jamais illusionné sur sa fidélité présente ou à venir. Mais Colnay-Pradel fut précisément le porteur de cette mauvaise nouvelle, se révéla plus douloureux que tout. Denise, elle, avait toujours considéré Léon avec dédain. Elle lui en voulait d'être parvenue à ses fins parce qu'il en avait les moyens. Dès le début de leur mariage, elle s'était montrée condescendante à son égard et lui n'avait rien trouvé à opposer à sa décision de faire chambre à part et chaque soir d'en fermer la porte. « Il ne m'a pas épousée, pensait-elle, il m'a achetée. » Elle n'était pas d'une nature cruelle, mais il faut comprendre, c'était une époque où les femmes étaient très méprisées. Quant à Léon, se voir contraint de fréquenter Henri de si près à cause de leurs affaires l'atteignait dans sa dignité, comme si ses relations conjugales calamiteuses n'étaient pas déjà suffisantes. Il vouait à Pradel une rancune telle que si leur mirobolant contrat avec l'État avait tourné au fiasco, il n'aurait pas levé le petit doigt, ce qu'il aurait perdu ne l'aurait pas ruiné, il aurait même laissé son associé se noyer avec ravissement. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, il y allait de sa réputation. Et les bruits qu'il entendait ici et là devenaient très inquiétants. Abandonner d'Aulnay-Pradel, c'était peut-être tomber avec lui, et ça, jamais. On évoquait tout cela à mots couverts, personne ne savait réellement de quoi il retournait, mais si on parlait de la loi, c'est qu'il s'agissait de délits, de délits. Léon avait un camarade de promotion qui, obligé de travailler, occupait une fonction à la préfecture. « Mon cher, lui avait-il dit d'un ton inquiet, ça ne sent pas très bon, hein, tout cela. De quoi s'agissait-il exactement ? » Léon ne parvenait pas à le savoir. Même ce camarade de la préfecture l'ignorait. Ou pire, ne voulait pas en parler. Léon s'imaginait assigné devant les tribunaux, un jardin Beaulieu devant un juge, ça le retournait. D'autant qu'il n'avait rien fait, lui. Mais allez le prouver. Embarrassant ? Répéta calmement Henri. Qu'est-ce qu'il y a donc de si embarrassant ? Eh ben, je ne sais pas, moi, c'est à toi de me le dire. Henri plissa les lèvres. Je vois pas de quoi il s'agit. On évoque un rapport, reprit Léon. Ah ! S'exclama Henri, c'est de ça dont tu parles. Oh non, non, sur rien, c'est arrangé, un malentendu. Léon n'était pas prêt à s'en contenter. Il insista. D'après ce que je sais, quoi ? Hurla alors Pradel. Qu'est-ce que tu sais, hein, qu'est-ce que tu sais ? Sans prévenir, il était passé de l'apparente bonhomie à la virulence. Léon l'avait observé ces dernières semaines. Il s'était fait tout un roman parce qu'il trouvait Pradel extrêmement fatigué et il ne pouvait s'empêcher de penser que Denise y était pour quelque chose. Mais Henri avait des ennuis, car un amant fatigué reste un amant heureux, tandis que lui était toujours tendu, plus irascible encore qu'avant, tranchant. Ainsi, ce soudain accès de fureur. Si le problème est arrangé, risqua Léon, pourquoi te mets-tu en colère ? Parce que j'en ai marre, mon petit Léon, de devoir rendre des comptes alors que je dois tout faire moi-même. Parce que Ferdinand et toi, vous touchez vos dividendes, mais qui passe son temps à organiser, donner des instructions, surveiller, compter ? Toi ? Ce rire était très désobligeant. Léon, pensant aux conséquences, fit comme s'il ne le voyait pas et poursuivit. « Je ne demande pas mieux que de t'aider. C'est toi qui t'y opposes. Tu réponds toujours que tu n'as besoin de personne. » Henri prit une profonde inspiration. Que répondre ? Ferdinand Morieux était un crétin et Léon un incapable de qui on ne pouvait rien attendre. Au fond, si ce n'était pas son nom, ses relations, son argent, toute chose indépendante de sa personne, c'était quoi, Léon ? Un cocu, voilà tout. Henri avait laissé sa femme moins de 2 heures auparavant. C'était d'ailleurs assez pénible. Il fallait toujours lui décoller les bras à 2 mains à l'instant de se quitter. C'était des simagrées à n'en plus finir. Il commençait à en avoir assez de cette famille, hein, vraiment. Tout ça est trop compliqué pour toi, mon petit Léon. Compliqué, mais il n'y a rien de grave, rassure-toi. Il se voulait sécurisant, mais son comportement hurlait l'inverse. « Quand même, » insista Léon, « à la préfecture, on me dit que quoi encore, qu'est-ce qu'on te dit à la préfecture ? Qu'il se passe des choses inquiétantes. » Léon était décidé à se battre pour savoir, pour comprendre, parce que, cette fois, il ne s'agissait pas de la frivolité de sa femme ou de la chute éventuelle de ses actions dans l'entreprise de Pradel. Il craignait d'être emporté à son corps défendant dans une spirale plus critique car venait se mêler aux affaires la question politique. Il ajouta « Ces cimetières sont un secteur très sensible. » « Ah oui, tiens donc, très sensible !»« Parfaitement, » reprit Léon, « névralgique même. Aujourd'hui, la moindre maladresse, et c'est le scandale, avec cette chambre !» Ah, cette nouvelle chambre. Aux élections de novembre dernier, les premières depuis l'armistice, le Bloc national avait remporté une majorité écrasante, composée presque pour moitié d'anciens combattants. Si patriotique, si nationaliste, qu'on l'avait surnommée la chambre bleu horizon, de la couleur des uniformes français. Léon avait beau avoir, comme disait Henri, les naseaux sur le bitume, il touchait juste. Cette majorité avait permis à Henri de se tailler la part du lion dans le marché gouvernemental et de s'enrichir à une vitesse proche de la lumière, la salvière avait été rebâtie pour plus du tiers en 4 mois. Certains jours, il y avait jusqu'à 40 ouvriers sur place. Mais ces députés étaient aussi la pire des menaces. Un tel rassemblement de héros se montrerait certainement sourcilleux sur toute question touchant leur cher mort. On en prononcerait des grands mots, ah ! On avait été incapable de payer correctement le pécule des soldats démobilisés, de leur retrouver des emplois, mais maintenant, on se vautrerait dans la morale. C'est ce qu'on lui avait laissé entendre au ministère des Pensions, où Henri avait été demandé, pas convoqué, hein, demandé. « Mon cher, tout se passe comme vous voulez. » Il était le gendre de Marcel Péricourt. On prenait des gants. Associé avec un fils de général et un fils de député, on ajoutait des pincettes. Ce rapport du préfet, voyons, on avait fait semblant de chercher dans sa mémoire, puis soudain, comme un éclat de rire, ah oui, le préfet Plerzec, oh non, rien, une babiole, que voulez-vous, il y a toujours eu des petits commis de l'État un peu tatillon, c'est une calamité inévitable. Non, d'ailleurs, le rapport a été classé. Imaginez-vous que le préfet s'est presque excusé. Si, mon cher. Non, c'est de l'histoire ancienne, vraiment. On avait alors adopté le ton de la confidence, mieux, du secret partagé. Mais il faut tout de même faire un peu attention parce qu'un petit fonctionnaire du ministère inspecte, un pointilleux, un maniaque. Impossible d'en savoir plus. Faire un peu attention. Dupré le lui avait décrit, ce Merlin. Un fouille-merde. Un type de la vieille école. Sale, paraît-il, ombrageux. Pradel n'arrivait pas à imaginer à quoi elle ressemblait, en tout cas à rien de ce qu'il connaissait. Un bureaucrate du bas de la pile, sans carrière, sans avenir. Les pires. Toujours des revanches à prendre. Ils n'ont généralement aucune voix au chapitre, personne ne les entend, on les méprise même dans leur administration. C'est vrai, avait-on poursuivi au ministère, mais enfin, cela n'empêche. Ils disposent parfois d'une capacité de nuisance. Le silence qui avait suivi s'était étiré comme un élastique prêt à craquer. Maintenant, mon cher, le mieux, c'est de faire vite et bien. Vite parce que le pays a besoin de passer à autre chose, et bien parce que cette chambre est très sourcilleuse sur tout ce qui touche à nos héros. On peut le comprendre. Avertissement sans frais. Henri avait simplement souri, pris un air entendu, mais avait aussitôt rappelé à Paris tous ses contremaîtres, Dupré en tête en sa qualité de chef, et il avait menacé chacun, donné des directives très fermes, lancé des mises en garde, promis des primes, éventuellement. Mais aller vérifier un tel travail. Il y avait plus de 15 cimetières de campagne sur lesquels sa société intervenait en amont et en aval 7 grandes métropoles et bientôt 8. Pradel observa Léon. De le voir du dessus, il repensa soudain au soldat Maillard qu'il avait regardé ainsi quand il était dans son trou d'obus et qu'il avait revu dans la même position quelques mois plus tard dans la fosse d'un soldat anonyme déterré pour complaire à Madeleine. Cet an-là, qui était loin maintenant, lui semblait toujours marqué par une grâce tombée du ciel, le général Morieux lui avait envoyé Madeleine Péricourt. Un vrai miracle, une opportunité inouïe cette rencontre, le début de toute sa réussite. Savoir saisir sa chance, tout est là. Henri écrasa Léon du regard. Il ressemblait tout à fait au soldat Maillard en train de sombrer. Il était bien du genre à être enseveli vivant avant d'avoir le temps de dire « ouf ». Pour l'heure, il pouvait encore servir. Henri lui posa la main sur l'épaule. « Léon, aucun problème. Et s'il y en avait, eh bien, ton père n'aurait qu'à intervenir auprès du ministre. Mais c'est gosier, Léon. C'est impossible. Tu sais bien que mon père est député de l'Action libérale et que le ministre marche avec la Fédération républicaine. » Décidément, pensa Henri, à part me prêter sa femme, cet imbécile ne me sert strictement à rien.